Bonjour et bienvenue dans les chroniques du SOPK par Asso SOPK. Je suis Mélinda, bénévole au sein de l'association, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Fontenelle Benoît, biologiste au sein du laboratoire Synerbio à Toulouse. Bonjour Monsieur Fontenelle.
Bonjour Mélinda.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, on va évoquer le rôle du biologiste. Et du coup, en quoi il peut participer surtout au diagnostic du SOPK? Je ne vais pas vous embêter avec le SOPK pur et dur. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter votre parcours professionnel à vous?
Alors, je suis le docteur Benoît Fontenelle, je suis médecin et spécialisé en biologie médicale. J'ai exercé pendant 20 ans principalement au sein de la clinique Pasteur à Toulouse, où j'avais un rôle de biologiste polyvalent, mais avec un rôle prépondérant en microbiologie, en infectiologie. Et là, depuis quelques années, je suis retourné vers une pratique à la fois sur les cliniques, mais aussi en ville, sur des laboratoires de ville.
Très bien, merci. Et en partant de cela, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus le parcours de formation pour être biologiste?
Alors, pour être biologiste médical, on peut accéder à cette fonction par la médecine ou par la pharmacie. Alors, les pharmaciens biologistes, ils font 5 ans de pharmacie plus 4 ans de spécialisation en biologie médicale. Et en médecine, on fait le tronc commun de médecine qui dure 6 ans. Et au bout des 6 ans, on se spécialise pendant 4 ans en biologie médicale pour avoir le titre de docteur en médecine, spécialiste en biologie médicale.
D'accord. Est-ce que vous passez par des stages de terrain, on va dire, comme les externes et les internes en médecine classique?
Absolument, on a une formation réelle de médecin. Moi, j'ai fait des gardes aux urgences, j'ai fait des services cliniques et ensuite seulement, on fait du laboratoire, mais on a les deux versants de notre formation, bien sûr.
Ok, et pour les pharmaciens, est-ce que vous sauriez m'en dire un peu plus? Est-ce qu'ils ont des stages aussi pratiques?
Alors eux, ils ont les 5 premières années qui sont strictement pharmacie, et pendant le cursus de biologie médicale, ils ont au moins un stage de 6 mois où ils sont dans les services et ils font la fonction d'interne, bien sûr.
D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur le rôle de biologiste? En quoi consiste vraiment le travail d'un biologiste?
Alors le biologiste, c'est une spécialité médicale comme un gynéco, un endocrino ou un gastro. Il est un peu moins connu, bien sûr, puisqu'il est moins en contact direct avec le patient. Mais moi, je m'amuse à dire qu'on est un petit peu à la biologie ce que le radiologue est à l'image. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'outil biologie pour participer ou faire un diagnostic. Parfois, nous sommes un peu les yeux du médecin clinicien, le médecin qui va soigner le patient. Nous sommes ses yeux sur tout ce qui est partie biologique.
D'accord. Au niveau, du coup, à proprement parler des biologies, ils remontent souvent, et puis même quand on change de laboratoire, par exemple, on se retrouve avec des résultats qui, parfois, changent beaucoup. Qu'est-ce qui définit ces normes de biologie?
Alors, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, il y avait de grosses, grosses différences d'un laboratoire à l'autre et on incitait les patients à changer le moins possible de laboratoire parce que chaque labo avait sa machine et ces machines étaient peu corrélées. Depuis une vingtaine d'années, il y a quand même des contrôles de qualité dits externes avec des comparaisons qui permettent d'homogénéiser, quelle que soit la marque du réactif et la marque de la machine que vous utilisez, qui permettent d'homogénéiser les résultats. Néanmoins, selon le type de réactif, ce n'est pas exactement la même réaction chimique. Donc, il peut y avoir des normes qui varient. C'est le fabricant qui nous les fournit, même si on les revalide en interne. Là aussi, il faut, si possible, dans le contexte du suivi d'une maladie chronique ou d'une maladie spécifique, éviter autant que possible de faire du nomadisme de laboratoire pour éviter ce biais-là.
D'accord. Et qu'est-ce qui définit exactement les normes hautes et basses d'une valeur chimique? Alors, par exemple, tout ce qui est cholestérol, par exemple. Souvent, des patients viennent et nous disent « Non, mais je comprends pas, dans votre labo, mon cholestérol est bon, et dans un autre, en fait, je suis tout juste au-dessus. »
Alors, ça dépend à la fois sur des choses relativement simples et connues, surtout très connues comme le cholestérol. Les normes se dépendent surtout d'études qu'on a faites sur leur impact physiologique. Par exemple, le LDL, hein, dans le cholestérol, on va donner une norme qui va être le facteur de protection, le facteur de risque statistique sur le patient. On sait que, par exemple, au-dessus de 1,30, le LDL vous positionne dans des situations plus à risque d'avoir un infarctus. On est un petit peu éloigné de la technique biochimique elle-même. D'un côté opposé sur de l'endocrinologie, ce dont on parle aujourd'hui, hein, des hormones, ces normes sont déterminées à la fois en fonction de la réaction biochimique qui permet de donner le résultat, mais aussi en fonction de cohortes de patients, c'est-à-dire qu'on fait des statistiques sur des populations réputées entre guillemets normales et on calcule des médianes ou des moyennes pour donner des valeurs de référence. Alors il faut bien faire aussi le distinguo entre des valeurs normales et des valeurs de référence. Des valeurs de laboratoire, ce ne sont pas des normales. Ce n'est pas parce qu'on va dépasser d'un petit pouillème qu'on est malade. Ce sont des valeurs de référence ou des valeurs repères. Très souvent, d'ailleurs, quand on voit une petite étoile et avec des chiffres à côté, ce ne sont pas des valeurs normales, ce sont des valeurs de référence, puisqu'il faut les interpréter dans un contexte. Et des valeurs qui vont sortir des clous, qui vont sortir de la référence pour un patient, ce ne sera pas grave. Et pour un autre, ça pourrait avoir une grande signification. Donc, il faut dépasser la simple interprétation de ces bornes pour rentrer dans l'interprétation médicale.
Ok, c'est pour ça que souvent on renvoie du coup derrière vers le médecin, même quand on vous demande à vous, biologiste, de nous aider un peu quand les patients nous interpellent, nous disent mais c'est normal, est-ce que je vais bien, est-ce que c'est grave? On renvoie souvent
Alors
à
là,
un rendez-vous.
bien sûr, les infirmières, les secrétaires, les techniciens du laboratoire ont un rôle important de communication vis-à-vis des patients. En seconde ligne, elles nous appellent pour pouvoir discuter. On fait l'interprétation. Le rôle principal, c'est de dire grave, pas grave. Si on est grave, là, c'est le biologiste, qui est médecin ou pharmacien, qui est proactif. Il n'est pas question de laisser un patient en danger. On ne rend pas que des chiffres. On est responsable du patient qui est venu nous confier ses analyses. Donc, l'exemple typique, c'est infarctus. Vous rendez un résultat sur lequel il y a un infarctus. Vous n'allez pas rentrer chez vous tranquillement le soir. Vous allez vous assurer que le patient sera pris en charge par tous les moyens, l'extrême, et on l'a tous vécu dans les laboratoires, le samedi à 14h. Vous avez ce résultat-là et il vous faut appeler les pompiers ou le SAMU parce que vous ne pouvez pas laisser le patient dans la nature et vous n'arrivez pas à le joindre. Après, quand c'est de l'interprétation fine, on va donner une première interprétation, mais on n'a pas toujours tous les éléments cliniques et le dossier du patient. Donc là, souvent on rassure et on oriente.
Ok. Une question qui est ressortie un peu dans les discussions au sein de l'association, c'était pourquoi y a-t-il des différences dans les analyses pour une même pathologie ou du moins un même type de dosage? Par exemple, avec le cortisol. Le cortisol peut se faire en salivaire, rarement en France quand même, en urinaire et en sanguin. Qu'est-ce qui définit les normes de chaque protocole, processus d'analyse, et pourquoi y a-t-il autant de différences d'une manière ou d'une autre?
Alors, chaque médecine a son école. Et ce qui est important au final, ce n'est pas tellement le chiffre. C'est l'impact physiologique de ce que vous allez doser. Donc, une hormone, alors là, vous prenez l'exemple du cortisol, effectivement, on peut le doser sur différentes matrices. On appelle ça la matrice, hein, le sang, la salive, les urines. Mais peu importe sur quoi on le dose, ce qui est important, c'est quel est son reflet physiologique. Par exemple, dans le sang, si on prend l'exemple par exemple de la ferritine, qui représente vous allez avoir un reflet assez bon du stock global. À l'inverse, le fer sérique, on ne dose que le fer circulant, que ce qui est en train de circuler, qui va refléter si vous avez mangé une alimentation riche en fer dans les heures qui précèdent, ce sera très élevé. Donc, effectivement, la matrice donne un chiffre, mais ce qui est important, c'est ce que physiologiquement ça représente. Donc, selon les écoles, selon les pays, on peut utiliser une matrice différente.
D'accord, donc c'est plutôt cette façon d'apprendre à interpréter cette physiologie qui va définir si on s'oriente plutôt sur du sanguin, du salivaire ou de l'urinaire.
Absolument. Voilà, par exemple, pour des toxiques urinaires, typiquement pour des toxiques, des choses que l'on fume, ça va se rechercher dans les urines. C'est ce qu'il y a de plus pertinent. Ça tient compte à la fois de la quantité qu'on va retrouver, pour pouvoir le doser, et aussi de la cinétique. C'est pouvoir, ça, selon le type de matrice qu'on utilise, le produit qu'on cherche restera plus ou moins longtemps ou reflétera plus ou moins bien ce qui s'est passé dans l'organisme.
Ok. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre puisque vous disiez que vous étiez plutôt sur l'infectiologie, mais par exemple pour le cortisol, qui reste nous une hormone qui est prépondérante sur le SOPK, puisque c'est l'hormone du stress, certains médecins préfèrent comparer du coup la matrice urinaire et la matrice sanguine, et d'autres ne se basent que sur le sanguin. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi plus ou moins l'un ou l'autre ou les deux en même temps?
Alors, quand on veut avoir une approche un peu plus globale, on regarde que le sanguin. Par exemple, dans des contextes d'épuisement, en dehors du SOPK, si on recherche soit de la pathologie surrénalienne pure, ou des contextes d'épuisement, souvent le cortisol sanguin suffit, sachant qu'il faut le doser toujours à la même heure, hein, puisqu'on sait qu'il y a un cycle dans la journée sur le cortisol. Quand on veut avoir à la fois la sécrétion, mais aussi l'élimination, eh bien, on dose aussi au niveau urinaire. Et c'est à ce moment-là, ça permet de voir ce qui rentre et ce qui sort, entre guillemets. C'est pour ça qu'on peut doser les deux en même temps et comparer.
D'accord, merci. Question qui nous a été posée par des membres de l'association plutôt qui venaient chercher des infos. Peut-on demander une analyse soi-même sans ordonnance d'un médecin au préalable?
Absolument. Absolument, il y aura deux choses à tenir en compte. Il faut que le biologiste soit d'accord, puisque c'est lui qui en prend la responsabilité. Il n'est pas obligé de réaliser, en dehors du contexte d'urgence, là où il est obligé de s'occuper du patient comme tout médecin, en dehors de ça, il n'est pas obligé de le faire. Après, il n'a pas de raison de refuser. Donc c'est la première chose, il faut qu'il accepte. Et le deuxième point, c'est que ce ne sera pas remboursé par notre assurance maladie, notre précieuse assurance maladie. Très souvent, comme souvent en médecine, quand on regarde le prix des examens, que ce soit de la radiologie, des examens cliniques ou de la biologie, ça chiffre assez vite. Et parfois, on a des patients qui viennent, qui disent c'est pas grave, je verrai mon médecin après, je vais payer. Et quand on leur présente le coût, ils attendent un petit peu et le font prendre en charge par l'assurance maladie.
Et du coup, qu'est-ce qui définit le coût, le tarif d'une analyse en particulier ou une autre? Pourquoi y a-t-il des différences entre, par exemple, telle ou telle hormone? Enfin, je suppose qu'il y a un système de cotation.
Absolument. Alors, ça paraît un petit peu étonnant, mais tous nos dosages sont des actes médicaux, d'un point de vue juridique. Ce sont des actes médicaux, comme on va vous faire une célioscopie, une consultation chez le médecin généraliste, quand vous dosez votre cholestérol ou votre hormone, c'est un acte médical. Et ces actes sont, en biologie, répertoriés dans ce qu'on appelle la NABM, nomenclature des actes de biologie médicale, et donc avec une lettre clé et un multiple. Et c'est ça qui va définir le prix d'un cholestérol qu'on va coter B, puisque c'est la biologie. B, c'est la lettre B a un prix, et on multiplie par un facteur. Et c'est la lettre clé multipliée par ce facteur qui va donner le prix de combien sera payé l'hormone ou l'acte de biologie qu'on fera.
Ok, auquel on y rajoute du coup le préleveur, je suppose, puisque en laboratoire, on est soit infirmier, soit biologiste, soit technicien de laboratoire.
Absolument, il faut rappeler qu'effectivement, on a des infirmiers et des biologistes et aussi des techniciens qui sont bac plus 2 ou bac plus 3 et qui, pour bon, la plupart, ont le certificat de prélèvement sanguin. Donc, on est souvent amené à avoir affaire à eux et ils sont très importants aussi.
Ok. Concernant du coup cette nomenclature, c'est ce qui définit donc le tarif des analyses propres à chacune. Et comment est-ce que c'est pris en charge par l'assurance maladie et ou du coup mutuelle, CMU, etc. Est-ce qu'il y a une répartition? Est-ce que c'est l'assurance maladie qui prend en charge entièrement? Puisque souvent on nous demande la mutuelle également.
Alors, si c'est une pathologie chronique, très souvent, on est pris en charge à 100% et la Sécu prend tout en charge, la mutuelle n'intervient plus. Si on est dans un contexte de soins classiques, il y a une part pour la mutuelle, ou s'il n'y a pas de mutuelle à la charge du patient, et une part qui est prise en charge par la sécurité sociale. Et le prix stricto sensu de l'analyse, il est déterminé par la complexité technique, selon les techniques qu'on va devoir mettre en œuvre, si elles sont simples. Par exemple, du cholestérol. Aujourd'hui, c'est extrêmement automatisé. Donc, ce sont des techniques qui ne coûtent plus grand-chose. Et aussi, en fonction de l'acte intellectuel qu'il va y avoir derrière. À l'inverse, vous allez faire un myélogramme, une analyse de la moelle osseuse sanguine. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais il va y avoir un acte intellectuel important derrière qui va prendre du temps et de la compétence. Et donc, la nomenclature tiendra compte de ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des analyses qui ne sont ni remboursées par la Sécurité sociale, ni par la mutuelle, et donc à 100% en charge de la part du patient?
Oui. Dans un contexte en particulier, c'est lorsque le bénéfice n'est pas suffisant ou suffisamment reconnu. Je prends l'exemple de la vitamine D. Le dosage de la vitamine D aujourd'hui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. L'assurance maladie, son rôle, c'est de dépenser chacun de nos euros, puisque ce sont nos euros, nos sous, de façon la plus pertinente pour l'ensemble de la population. Et rembourser, par exemple, la vitamine D aurait un coût trop important pour la population par rapport aux bénéfices qu'elle en tirerait. Donc la Sécurité sociale a dit, ces sous, je préfère les dépenser ailleurs, ce sera plus pertinent que de rembourser le dosage de vitamine D, sauf certains contextes particuliers, bien sûr. Et l'autre scénario dans lequel les analyses ne sont pas remboursées, ce sont des actes qui sont très novateurs et qui n'ont pas été encore reconnus. Je te prends toujours en plaisantant, si demain j'invente un dosage et que je dis je vais le vendre et je veux que ce soit remboursé par la Sécu va me dire non, démontre que ça sert à quelque chose, démontre qu'il y a du soin et que ça a du sens, et à ce moment-là, éventuellement, on le remboursera. Et c'est tout à fait normal.
Donc on en revient sur justement des enquêtes et des statistiques au plus grand nombre de populations atteintes qui sont impactées par cette analyse-là, et mieux la Sécu, du coup, va participer au remboursement de ces frais-là.
Absolument. Ils sont dans leur rôle de dépenser leur argent au mieux pour la santé de la population.
Ok. Dans le cadre du SOPK, souvent, on va doser tout ce qui est hormonologie, donc plutôt estradiol, FSH, LH, progestérone, cortisol. Je suppose que ce sont des analyses qui sont remboursées.
Absolument.
On va aussi parfois cibler tout ce qui est surrénalien.
Oui.
Ça l'est également.
Absolument, puisque ce sont des hormones qu'on demande dans ce syndrome-là, mais qu'on peut aussi demander dans beaucoup, beaucoup d'autres contextes. Hein. Ce sont des axes à explorer et que tous les endocrinologues maîtrisent très bien. Donc ce sont des outils du quotidien.
Ok. Parfois, on va viser aussi tout ce qui est plutôt complexe de vitamines, minéraux, zinc, magnésium, calcium, vitamine B1, B6, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête, cuivre. Est-ce qu'il y a des prises en charge dans toutes celles-ci ou est-ce qu'il y en a quelques-unes qui peuvent ne pas être prises en charge?
Certaines ne sont pas prises en charge, j'ai pas précisément tout en tête, mais effectivement, dans ce que vous avez cité, certaines ne sont pas prises en charge. Alors, lorsque c'est dans un contexte d'une pathologie précise, on est un petit peu frustré, déçu, et on se dit, mais pourquoi est-ce que ma Sécu ne me rembourse pas ça? Mais c'est parce que, comme je vous le disais, au global, la Sécu a estimé qu'on ne pouvait pas rembourser systématiquement certains dosages, peut-être parce qu'il y aurait des abus, il y aurait trop de volume dessus, et que le coût est trop important par rapport aux bénéfices. Alors, dans le contexte du SOPK, quand on demande si ça peut avoir du sens, mais malheureusement, parfois, ça peut rester à charge. Après, okay. Au rôle des associations, parfois, d'aller monter au créneau et de dire, attendez, nous, dans notre contexte, on a besoin de rembourser ça, et si la Sécu est capable d'entendre et que vous êtes capable de le démontrer, ils peuvent très bien décider que dans ce contexte-là, comme pour la vitamine D, je vous disais, c'est pas remboursé, dans certains contextes, l'ostéoporose, le rachitisme, c'est remboursé, mais c'est toute petite part des demandes.
D'accord, ok. Bon, après, c'est un autre cheval de bataille pour nos associations, justement, de faire reconnaître le SOPK comme une maladie chronique, puisque effectivement, elle a des impacts sur la vie quotidienne et qu'elle a d'autres conséquences métaboliques derrière, souvent en avançant dans l'âge, mais ça, c'est un autre débat et un autre combat.
C'est un débat qui fait sens, puisque on le sait depuis longtemps, mais la Sécu, nos organismes dirigeants s'aperçoivent, le savent, mais appliquent de plus en plus la règle de dire « mieux vaut dépenser un euro aujourd'hui pour que la personne n'en coûte pas 10 plus tard ». Et alors, c'est facile à dire comme ça, mais beaucoup plus difficile à appliquer sur le terrain, hein, d'une population comme la France. Mais ils en sont parfaitement conscients que ça s'appelle la prévention.
Ok, bon, espérons peut-être que pour nous, les patientes atteintes du SOPK, un jour la Sécu entende raison et que elles comprennent qu'effectivement, dans la prise en charge en prévention maintenant, ça évite des complications métaboliques à terme plus tard pour nous.
Absolument.
J'en reviens un peu après l'acte du coup de prélèvement et la sortie des résultats des analyses. Quel rôle le biologiste joue-t-il dans la suite de la relation avec le patient?
Alors, on fait ce qu'on appelle une validation biologique. C'est une validation médicale où on peut avoir recueilli un certain données cliniques, certains du contexte sur le patient. Et là, il y a deux scénarios. Comme je vous disais, soit on le valide et on s'arrête là. Je mets mon nom en bas de la feuille juste pour dire ces résultats sont exacts. J'en prends la responsabilité, je les stocke. Et il n'y a pas d'autre action sinon de les transmettre aux médecins prescripteurs et aux patients. Et dans certains contextes, on va devoir être proactif, c'est-à-dire soit appeler le clinicien et l'alerter, ou lui donner une interprétation sur des choses spécifiques, ou parfois carrément aller directement vers le patient parce que y a plus, on est le dernier rempart. Parfois, on est le dernier rempart.
Ok, donc du coup, dans un contexte d'urgence, par exemple sur les marqueurs cardiaques, vous pouvez tout à fait appeler le patient directement, dire bah, rendez-vous aux urgences.
Absolument, ça arrive très régulièrement sur des tests de coagulation, hein, comme les INR. Parfois, on a un rôle de conseil ou, à l'extrême, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'appeler les pompiers ou le SAMU pour aller chercher des patients qu'on n'arrivait pas à joindre, dont on avait juste l'adresse et on savait qu'il y avait un diagnostic potentiellement létal dans les heures qui venaient. Le médecin prescripteur n'était plus joignable et on était le dernier rempart. Et là, bien évidemment, on se doit d'aller chercher le patient.
Ok. Est-ce que toute personne qui vient faire des analyses dans un laboratoire peut demander du coup une interprétation au biologiste quand il vient retirer ou appeler le laboratoire, demander à joindre le biologiste pour un résultat qu'il ne comprend pas parce que bah, tout le monde ne sait pas lire des analyses rendues sur un papier?
Absolument, absolument. Et en plus, j'ai envie de vous dire, Melinda, ça nous fait plaisir parce que ça nous sort de notre écran et de nos paillasses et de nos tubes. Et l'immense majorité d'entre nous aime beaucoup venir au contact de nos patients parce que ça reste nos patients, même si on vous voit la plupart d'entre eux à travers des tubes, ce sont nos patients. Donc on descend toujours avec plaisir voir les patients, parler avec eux, leur expliquer, les rassurer, les orienter, les soigner. Non, c'est pas nous qui prenons le soin en direct, mais voilà, on oriente, on explique, on rassure, ça fait partie de notre rôle et on le fait vraiment avec grand plaisir.
Et à l'inverse, est-ce qu'un médecin peut se permettre d'appeler du coup son confrère pour comprendre pourquoi une telle différence entre cette analyse et une précédente? Ou par exemple parce que du coup il ne comprend pas le contexte de la demande du patient et pourquoi ces analyses à ce moment-là ou qu'un confrère a prescrit dans un autre contexte d'urgence, cerner un peu le cas?
Bien sûr, on est complètement dans notre rôle d'interprétation. Sur des choses simples, n'importe quel médecin peut les interpréter. Sur des choses plus spécifiques, on va avoir un rôle d'interprétation et d'explication. Et c'est là aussi notre quotidien et notre valeur ajoutée de donner de l'interprétation sur ces examens. Absolument.
Ok, je vais recentrer un petit peu plus sur le SOPK. De vos souvenirs à vous, quelles sont les connaissances, quels sont les cours que vous avez eus ou peut-être les connaissances sur le terrain que vous avez eues concernant le SOPK?
Comme tous les médecins, on passe le module d'endocrinologie dans lequel le SOPK est décrit. Après, ce ne sont pas des choses que la plupart des médecins ont pratiquées et connaissent précisément. Je pense que, à part quelques médecins généralistes qui sont intéressés au sujet, la plupart ont des connaissances générales. Et ce sont les endocrinos, hein, qui maîtrisent les gynécos et les endocrinos qui maîtrisent le plus ce sujet-là. Néanmoins, on doit pouvoir l'évoquer. Les médecins doivent pouvoir, les médecins généralistes, puisque ce sont eux souvent, hein, qui font les premiers diagnostics, ce sont eux qui sont en première ligne, doivent pouvoir l'évoquer cliniquement et ensuite soit faire les examens de débrouillage pour exclure la pathologie ou l'évoquer et ensuite passer la main à quelqu'un qui a plus l'habitude de gérer et de gérer ça.
D'accord. Je pense que ça remonte à trop loin, mais au niveau du module d'endocrinologie, donc du SOPK, Est-ce que vous avez souvenir que c'était un gros module? Est-ce que c'était juste une page d'un cahier de cours? Est-ce que c'était voilà un sacré morceau ou non?
Alors, c'est difficile de hiérarchiser comme ça. Non, je m'en souviens, hein. C'était il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça quand même, donc je m'en souviens. Si on devait faire, pour répondre précisément, si on devait faire un hit parade, bien sûr que dans l'endocrinologie, on a étudié l'axe surrénalien, on a étudié tout ça, mais le SOPK, c'est pas forcément ce qu'à l'époque, on nous mettait en première ligne de ce qu'on rencontrerait en médecine quotidienne, c'est certain. Et probablement à tort, mais je vous parle effectivement d'il y a quelques années, et il est probable que ces pathologies soient mieux connues et mieux diagnostiquées et mieux enseignées aujourd'hui qu'elles l'étaient à mon époque.
Ok, oui, après, enfin, pour le retour des patients que nous sommes, il est vrai que c'est un peu, on va dire, une plouf-plouf. On peut tomber sur un médecin qui va très bien maîtriser le sujet, tout comme beaucoup de médecins ne connaissent pas encore ce syndrome. Et du coup, la plupart d'entre nous subissent une errance médicale parce que, effectivement, le processus d'élimination pathologie par pathologie ne fait pas partie au niveau du SOPK en première intention des premières analyses qu'on va subir. Donc voilà,
Et c'est là
on
que
voit ça.
le rôle d'association comme vous et de la communication et de l'éducation médicale de la population est super importante. Parce que, alors, faut toujours être, comment dire, il ne faut pas donner une leçon au médecin, bien sûr, parce que vous allez le heurter, mais évoquer une pathologie avec lui, si c'est quelqu'un avec qui vous échangez facilement et quelqu'un qui est à l'écoute, si lui ne l'a pas évoqué, vous pouvez très bien lui tirer la manche et dire, voilà, moi j'ai lu ceci, moi j'ai lu cela. Et dire, voilà, est-ce que on peut pas évoquer? Parce qu'on a soi-même la culture de quelque chose. Donc c'est là où vous êtes pleinement dans votre rôle d'éducation de la santé de la population.
Oui, et aussi, voilà, comme vous le disiez, sans brusquer le médecin, mais effectivement, dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce qu'on peut faire des analyses en ce sens ou justement pour l'éliminer?
Absolument.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Fontenelle. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le rôle du biologiste, quelque chose à préciser, ou alors sur le SOPK en général?
Plus général, moi je suis extrêmement favorable et c'est même la mode, le courant de la santé aujourd'hui, c'est que les patients deviennent de plus en plus acteurs de leur pathologie, surtout des pathologies comme ça, qui sont des pathologies au long cours, dans lesquelles il faut avoir une vraie, il faut s'approprier la pathologie, développer sa propre culture, tout en restant scientifique. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les médecins, mais se faire sa propre culture pour être acteur de sa pathologie. Les exemples classiques, c'est le diabète ou des maladies endocriniennes comme le SOPK, où il faut bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir le piloter. On ne peut pas se reposer entièrement sur ses médecins. Donc votre
Ok.
rôle est super important.
Du coup, ça me fait penser au fait de la recherche. Un biologiste peut tout à fait repartir dans la recherche. Du coup, peu importe l'axe qu'il choisit, enfin, selon les choix ou les milieux d'exercice, peut-être?
Alors, beaucoup de médecins, enfin tous les médecins peuvent partir vers la recherche à un moment de leur carrière. Les biologistes peut-être un peu plus puisqu'ils ont une formation technique là-dessus. Mais à la base, on reste des pathologistes. Hein, en biologie, on reste des médecins de la pathologie. Donc partir vers la recherche, c'est possible, mais j'ai envie de dire presque comme n'importe quel médecin. Hein.
Ok. Bon, après, du coup, effectivement, on le voit surtout avec les gros laboratoires, on va dire, de PMA. Du
Oui.
coup, effectivement, on sait que derrière, certains évoquent de la recherche. Mais à ce jour, peut-être pas encore le SOPK comme sujet de prédilection. On l'espère un jour.
Absolument.
Merci encore, Monsieur Fontenelle.
Avec grand plaisir.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode.